Vous écoutez France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Guy Bruy et Emmanuel Huysmans-Perrin. Pierre Thévagnan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie au lycée Eugène Delacroix de Drancy. Vous êtes essayiste et militant associatif. Vous militez sur deux points centraux. Vous êtes promoteur d'une laïcité ouverte et défenseur des libertés publiques. Vous avez créé en 2000 avec Sylvie Tissot un collectif intitulé « Les mots sont importants ». Nous vous avons reçu à l'antenne de l'Union rationaliste en janvier 2010 avec Guy Bruy et nous avions alors parlé du débat sur l'identité nationale. Aujourd'hui, si nous vous avons invité à l'antenne de l'Union rationaliste, c'est que vous venez de publier deux ouvrages, une chronique du racisme républicain chez Sileps et puis ce livre dont nous allons parler aujourd'hui, qui s'appelle, et c'est un titre pour l'Union rationaliste d'une certaine façon, « La haine de la religion, comment l'athéisme est devenu l'opium du peuple de gauche ». Donc ma première question, Pierre Thévagnan, c'est de nous expliquer ce titre à la fois polémique et très intéressant.
Oui, alors le titre, bon, un titre est toujours simplificateur. Là, on a un titre et un sous-titre, et donc j'essaye de dire le plus possible dans un titre et un sous-titre. La haine de la religion, ça désigne un discours et des postures qu'on peut qualifier de haineuses, c'est-à-dire de rejet très virulent de la religion. Prise comme une entité assez vague, mais enfin dans les discours en question, c'est comme ça que ça se pose, la religion qui serait présentée comme la source de tous les maux, de tous les fléaux sociaux, et comme qui serait donc comme quelque chose qui serait forcément à combattre. Et comment l'athéisme est devenu l'opium du peuple de gauche, donc c'est un titre qui fait évidemment référence à une formule célèbre de Marx sur la religion opium du peuple. Alors, la raison de ce sous-titre, elle est multiple aussi. C'est parce que le point de départ du livre, c'est justement une réaction d'incompréhension ou de colère aussi que j'ai pu avoir, à la fois justement comme philosophe ou professeur de philosophie, ou en tout cas lecteur de philosophie et lecteur de Marx, et professeur qui enseigne justement ce fameux texte de Marx sur la religion. Où il y a cette formule célèbre « opium du peuple », et une colère aussi de citoyens par rapport aux usages justement qui étaient faits de cette formule, parce que depuis une quinzaine d'années, dans les milieux de gauche justement, d'où « opium du peuple de gauche », cette formule sert un petit peu de cri de ralliement et de formules magiques pour justifier justement des postures haineuses contre la religion. On pourrait dire que ça ne mange pas de pain si ça reste contre la religion, mais comme toujours, quand on parle contre la religion, c'est rarement de manière abstraite et sans effets sociaux, c'est toujours dans un contexte. Et le contexte qui m'a amené à écrire ce livre, à réagir, c'était que justement le contexte, c'est celui, c'est un contexte d'islamophobie, de racisme, de voilophobie, c'est-à-dire d'un rejet particulier qui cible les femmes musulmanes portant un foulard. Et justement, parmi les nombreux argumentaires ou discours ou registres de discours qui sont utilisés pour justifier ces attitudes de rejet, qui sont des attitudes de rejet, je précise, qui n'ont rien de désincarné, qui ne relèvent pas simplement de l'opinion, qui sont des opinions qui ont des effets, c'est-à-dire que ça justifie au final soit des lois, soit des décisions, soit des politiques publiques, soit des décisions individuelles, mais qui ont toutes comme point commun d'aboutir à rejeter des personnes. C'est-à-dire qu'au-delà de la haine de la religion ou d'une religion, donc qu'il s'agisse d'une haine globale de la religion ou d'une haine de l'islam, comme religion, on exprime rarement cette haine sans que, implicitement ou explicitement, ça ait des effets contre des personnes qui se retrouvent dans cette religion, qui affichent plus ou moins cette, une référence religieuse. Et donc le contexte dans lequel j'ai écrit ce livre, c'est justement un contexte depuis une dizaine, une quinzaine d'années, dans lequel, à gauche aussi, des attitudes que j'analyse comme des attitudes racistes, islamophobes, en tout cas discriminatoires, en tout cas des attitudes de rejet illégitimes, sont justifiées à l'aide d'une référence philosophique, d'une référence politique, qui est la référence à Marx et à cette fameuse formule sur l'opium peuple de gauche. Alors cet usage m'a posé un problème, je parlais d'incompréhension ou de colère, parce que c'est un usage auquel je fais deux reproches dans le livre, justement, je développe ça dans le livre. C'est d'une part qu'il est philosophiquement ou historiquement un contresens, tout simplement, un contresens philosophique. C'est une lecture à contresens de ce que dit Marx réellement dans ce texte. Et donc c'est une lecture, pour simplifier, je dirais une lecture bête ou une lecture erronée. Et si ça n'était que ça, ça ne serait pas grave. C'est-à-dire que c'est bête, mais bête et méchant, si je dois employer des mots un petit peu simples. Parce que justement, c'est un contresens, c'est pas n'importe quel contresens, c'est un contresens qui a des effets sociaux extrêmement lourds. C'est que ça vient justifier justement, et y compris au sein de la gauche, puisqu'il y a effectivement au sein de la gauche une tradition, ou en tout cas des tendances, à effectivement avoir, pour des tas de raisons historiques, de la méfiance, voire de l'hostilité à l'égard des religions. Oui. Donc voilà, le but de ce livre était de revenir à ce texte de Marx, pour voir ce qu'il en est, et pour essayer d'avoir une approche un petit peu plus rationnelle, rationaliste, et matérialiste, marxiste, du fait religieux, de l'engagement religieux, et de la manière dont l'engagement religieux peut être articulé avec un engagement politique.
Très bien. Alors, revenons à ce texte de Marx, si vous voulez bien, ce très difficile texte de Marx que les professeurs de philosophie dans les classes, en effet, travaillent avec leurs étudiants. Et est-ce que vous pourriez, Pierre Thévagnan, nous expliquer rapidement, justement, pourquoi la formule « trop rapidement » est mal comprise, et qu'est-ce qui est à comprendre derrière l'illusion que dénonce Marx autour de la religion?
Alors, c'est effectivement un texte très complexe. Il y a énormément de formules. C'est le cœur d'un monde sans cœur, le soupir de la créature opprimée. Oui. La réalisation imaginaire de celui qui n'a plus de réalité vraie,
soupir de la créature accablée, ou la
il y a une dizaine comme ça, dizaine de formules, de métaphores qui sont enchaînées.
Imagée.
Donc évidemment, c'est matière à de très longues et très diverses exégèses. Donc j'ai pas la prétention de résumer un petit peu tout ce qu'on peut tirer de ce texte et tout ce qu'on peut discuter, y compris de l'analyse de Marx. Mais en tout cas, moi, la chose principale sur laquelle j'ai réagi, c'est que justement, ce texte, on se focalise sur une formule « opium du peuple », comme un simple verdict, justement, qu'on ne prend même pas la peine d'analyser, comme, en gros, une espèce de couperet. Voilà, donc la religion, c'est, ça ne vaut rien.
Ça endort.
C'est de la drogue. Ouais. Avec, y compris, alors, un contresens... ou en tout cas un jeu sur la connotation du mot qui relève de l'anachronisme, parce que quand Marx écrit ça au XIXe siècle, on n'a pas une vision aussi négative de l'opium et de ses effets que les connotations que le mot peut avoir aujourd'hui. C'est vraiment, à l'époque où Marx l'emploie, l'opium, c'est un antidouleur.
Oui, un soin. Voilà, le laudanum était un soin.
Un soin. C'est d'ailleurs, je le dis aussi, je le rappelle dans le livre aussi, puisque je ne suis pas le premier à le rappeler, mais que c'est une métaphore d'ailleurs que Marx n'invente pas, qui reprend ça, et que Marx s'inscrit quand il écrit ce texte dans un débat qui traverse toute la philosophie du début du XIXe siècle, et qu'on retrouve chez un très grand nombre d'auteurs, y compris la métaphore de la religion. Donc c'est effectivement un opium, une consolation, une évasion, un moyen de supporter une réalité.
La dureté de la réalité.
Voilà, la dureté de l'existence, la dureté de la réalité.
Une consolation.
Alors, je parlais d'un contexte particulier. Cette formule, justement, sur l'opium du peuple, on l'a beaucoup réentendue, justement, au début de l'année 2010. J'étais venu au début de l'année 2010, et justement, c'est à cette époque-là qui est revenu sur le devant de la scène dans la bouche de beaucoup d'hommes politiques, cette formule pour se scandaliser ou ricaner du fait que, dans le cadre d'une campagne électorale, le NPA, nouveau parti anticapitaliste, présentait dans le sud de la France une liste dans laquelle il y avait tête de liste, en tout cas localement, une femme, une militante donc, du NPA qui était musulmane et qui portait un foulard. Et donc ça avait donné lieu à une énième affaire de voile qui avait comme ça occupé le devant de la scène médiatique pendant quelques semaines. Et toute la classe politique et tous les grandes plumes de l'éditorialisme français avaient justement exprimé soit sur un mode indigné, soit sur un mode sarcastique, mais leur incompréhension face au fait comment un parti marxiste peut-il oublier que la religion c'est l'opium du peuple et peut-il accepter qu'une femme voilée soit non seulement militante mais représentante d'un parti justement qui se prétend justement de tradition marxiste, matérialiste et non religieuse.
Par rapport à ces réactions.
Par rapport à ces réactions. Haineuses. Alors, qui étaient non seulement des réactions haineuses, mais qui étaient aussi. Qui prenaient la forme justement du sarcasme et qui invitaient justement Olivier Besancenot et ses petits camarades à retourner à leurs études et à relire Marx. C'est un petit peu comme ça que j'ai eu l'idée de ce livre. Je les ai pris au mot. Et j'ai relu Marx, effectivement, j'avais lu...
en philosophe.
Ce que, à mon avis, n'avait même pas fait un certain nombre des gens que j'épingle dans le livre. Donc ça allait vraiment de Éric Zemmour à Aurélie Filippetti, en passant par Nadine Morano. Donc des gens dont je ne suis pas sûr qu'ils avaient un jour lu ce texte de Marx. Mais en tout cas, donc, je les ai pris au mot et j'ai relu.
Aurélie Filippetti, on peut le penser, quand même.
Oui, en tout cas pas relu, du coup, peut-être. En tout cas, quand on le relit, il y a une chose qui est claire, et c'est un des premiers chapitres du livre, je commence par ça, c'est que Marx, justement, s'inscrit dans un débat qu'il ne pose pas lui. Donc ce n'est pas son cheminement philosophique, son travail philosophique à lui qui l'amène à s'intéresser à la question religieuse, à l'aliénation religieuse, à l'illusion religieuse ou à la religion perçue positivement ou négativement comme un opium. Tout ça, ce sont presque des lieux communs de son époque. Il est jeune philosophe et il s'y intéresse un petit peu comme on s'intéresse à un passage obligé, justement. Il se confronte à ses contemporains dans le champ, justement, progressiste de la philosophie allemande et européenne de l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est que sa manière singulière de se positionner dans ce débat, et y compris de revisiter cette métaphore de l'opium, c'est, et là je ne force pas du tout le sens du texte, c'est très clair, c'est que l'illusion qu'il dénonce, s'il dénonce une illusion, c'est pas tant la religion, ou bien entendu il commence par dire que la religion est une création humaine, c'est son postulat de départ, mais qu'il partage avec les gens à qui il s'adresse, parce que ce qu'il dit dans ce texte, c'est que, en gros, quand on a dit ça, on n'a rien dit. Et il dit qu'il faut s'intéresser avant tout aux conditions sociales, historiques, matérielles qui produisent ce qu'il appelle le besoin de religion. C'est-à-dire qu'il envisage... il a là aussi toute une série de formules que j'ai plus en tête et qu'on n'aurait de toute façon pas le temps de développer. Mais en tout cas, soupir de la créature opprimée, âme d'un monde sans cœur, ou enfin je...
Âme d'un monde sans âme, je crois.
Oui, enfin je cite esprit, un esprit pour les situations où il n'y a plus d'esprit. Justification universelle. Enfin, en gros, la religion apporte une consolation. Il y a ce concept qui est essentiel. Et il a en tout cas cette formule à la fin. Lutter contre la religion implique donc de lutter contre ce monde-ci qui fait d'une certaine manière de la religion un besoin.
Une nécessité.
Une nécessité. Et le texte, le paragraphe, en tout cas, où il y a cette métaphore de l'opium du peuple, se finit par « la critique de la religion doit donc devenir ou se transformer ou se prolonger dans une critique du monde dont la religion n'est que l'auréole spirituelle, je crois. » Et il a cette autre formule de la vallée de larmes, voilà, de cette vallée de larmes dont la religion n'est que l'auréole spirituelle. Mmh. Et je ne sais plus si c'est dans les phrases qui suivent ou dans un texte écrit à la même époque, un autre texte, mais il parle de redescendre sur terre et de, donc de passer de la critique de la religion à la critique du droit, de l'économie politique et de la politique. Et de fait, on peut donc interpréter ce texte comme clairement un texte qui s'adresse à justement tout un courant de la libre pensée et de la philosophie justement anti-religieuse ou de la philosophie héritée des Lumières, en tout cas de toute une mouvance philosophique qui voit dans la religion l'ennemi principal d'une certaine manière, la cause de tous les maux. Et Marx retourne un petit peu la problématique en disant que la religion, si on parle de cause ou de conséquence, serait plutôt la conséquence de la misère que sa cause. Elle ne doit pas par conséquent être considérée comme l'ennemi. Le vrai combat se situe ailleurs, justement. Il dit très explicitement qu'on doit passer d'une critique de la religion et d'un combat contre la religion à une critique et à un combat contre ce monde-ci, d'ici-bas. La critique du ciel, voilà. On doit passer d'une critique du ciel à une critique de la terre et d'une critique de la religion à une critique de l'économie, de la politique et du droit.
C'est sur ces derniers mots, appelant à une critique de ce qui se passe sur Terre, que nous allons clore cette émission. Pierre Thévagnan, je vous remercie.
Merci à vous.
Je rappelle que Lucien Sève a reçu en 2008 le prix de l'Union rationaliste et avait fait à cette occasion, comme Pierre Thévagnan aujourd'hui, une excellente mise au point sur Marx et la religion. J'annonce que Monsieur Tozel vient de publier chez Quimet deux volumes intitulés « Scénario de la mondialisation culturelle ». Je remercie Bruno Sourcy et Pierre Mine qui ont rendu possible cette émission. Je rappelle les deux ouvrages de Pierre Thévagnan, « La haine de la religion » et « Chronique du racisme républicain ». Et je vous dis au mois prochain.